Memory.
T'approches pas trop.
Mais cette fois, on peut. À travers les lettres, je vois le bâtiment extérieur.
Qu'est-ce que c'est, la mémoire, pour toi?
Vraiment un stit jusqu'au bout des ongles, toi.
J'essaie juste de faire en sorte qu'on puisse réfléchir ensemble, Pascal.
Ok. Alors, admettons que la mémoire fonctionne comme fonctionne la lumière ici. Elle passe, mais seulement à travers les lettres. Elle ne passe pas toutes. Elle passe à travers un filtre, les trous dans le mur.
Je crois, oui.
Donc, cette installation est une sorte de métaphore de la mémoire. Elle passe à travers le filtre de la conscience.
Ah bah, tu vois quand tu veux. L'artiste est une jeune artiste indienne. Elle a été accueillie en résidence ici et a réalisé 3 œuvres produites par le musée, dont celle-ci.
Tu crois que ce travail pourrait être montré ailleurs?
Je sais pas, peut-être. Mais je crois pas. C'est quand même ce qu'on appelle un travail in situ. C'est-à-dire qu'il a été réalisé pour un espace particulier et fonctionne dans un espace, dans un rapport singulier avec cet espace-là. Mais qu'est-ce que tu fous?
J'aime bien voir l'œil presque collé aux lettres, aux trous que font les lettres, regarder le bâtiment, la lumière à travers. J'ai l'impression de prendre l'air, j'ai l'impression de faire autre chose, quelque chose de plus que simplement regarder. J'ai l'impression de respirer, Joséphine, d'agir, et je me sens bien. Tu comprends ça? Je me sens bien. Et j'ai l'œil collé à la mémoire, au fonctionnement de la mémoire. Dingue!
Calme-toi, mon chou, tu es simplement en train d'expérimenter. Et Shilpa Gupta réalise des travaux qui permettent justement aux visiteurs d'expérimenter. Souvent à partir de nouvelles technologies, mais c'est pas le cas ici, c'est même le contraire. Bon, j'ai besoin d'un café, là, je te laisse expérimenter.
Bonjour et bienvenue, je suis Alexia Fabre, conservatrice du MacVal, et je suis très heureuse de vous accueillir dans les collections de notre musée départemental. C'est un lieu encore très jeune, il a ouvert en novembre 2005, et il a été construit sous la direction de l'architecte Jacques Ripaud. Ce musée est le seul à se consacrer essentiellement à l'art contemporain français. La collection comprend aujourd'hui un millier de pièces, dont les plus anciennes ont été réalisées dans les années 50. Et nous inventons avec les artistes un dialogue intime, profond, et les invitons à créer des projets, à prendre la parole, à poser un regard sur la manière dont leurs travaux sont montrés. J'espère donc que vos rencontres avec ces œuvres seront riches, fructueuses, pleine de beauté, de pensée et d'étonnement. L'exposition s'appelle « Je reviendrai ». Elle parle de voyage, de l'ici, de l'ailleurs, de départ et de retour. Alors je vous souhaite de faire parmi nos collections un excellent voyage.
Une voiture, une sculpture ou alors une carcasse, un déchet. La trace d'une guerre, d'une révolte, un jouet gigantesque. Cette New Beetle est d'abord le moulage en polyester orange peint d'une coque Volkswagen. Ou plutôt, de la réplique faite en 1998 d'un modèle des années 30 popularisé dans les années 60-70. Ici, tout est neuf, lisse, brillant et faux. Ce n'est donc pas la réalité qu'Étienne Bossu nous donne à voir, ni même un fragment de cette réalité. D'ailleurs, la pièce se nomme l'auto du salon. Une voiture à contempler, mais aussi depuis laquelle contempler. Qu'on regarde en effet à travers les trous du pare-brise ou des fenêtres. On verra le monde. Mais on le verra de l'extérieur, alors que dans une voiture véritable, c'est depuis l'intérieur qu'on voit ce monde. Pour Étienne Bossu, ce retournement renvoie au moulage par lequel on inverse la forme. C'est un simulacre que l'on voit ici. L'image d'une image. Et même, l'artiste le dit, une vanité. Mais ici, l'enveloppe crânienne chère au peintre classique est remplacée par une coque de voiture. Ce moulage alors évoque une société consumériste où les objets sont remplacés, abandonnés, avant même d'avoir été usés. Ainsi pourrions-nous dire que cette pièce est un paradoxe. Une ruine, mais une ruine flambant neuve. Écoutons ce qu'en dit l'artiste.
J'ai toujours préféré le moulage à l'original, parce qu'avec le moulage je mémorise l'essentiel, sans m'encombrer du poids de la réalité. Le moule est pour moi la mémoire, et les moulages sont les souvenirs.
Admettons qu'une peinture puisse être réalisée sans toile, sans pinceau, mais avec des tubes de néon, avec de la lumière. Ainsi, nous sommes face à une peinture lumineuse. Bien évidemment, elle excède son propre cadre, déborde au mur et sur le sol. Il s'agit de géométrie aussi, et même d'abstraction géométrique. Un carré, mais sur la pointe, décalé, asymétrique, et dont une des branches tombe, devient crochet. Ainsi, le carré n'est plus véritablement carré. Avec humour, François Morlaix met donc à mal la géométrie qui est pourtant au centre de son travail. C'est que pour lui, il s'agit toujours de perturber le système mis en place. Le titre d'ailleurs signale l'ironie, « Carrément décroché numéro 1 ». On peut l'entendre de plusieurs manières, ce titre, manipuler les mots comme l'artiste lui-même manipule les formes. Carré décroché, carré qui ment, carré croché, carré dément, carré crochément, carré dément croché, crochet dément carré. Pour François Morlaix, le titre est toujours le lieu où s'énonce la règle, le système joué dans l'image. Ici, il s'agit à la fois d'un jeu sur le signifiant, carrément devient carrément, et d'une contrepétrie, crochet dément carré. C'est donc une abstraction double qu'invente l'artiste et qu'il met en œuvre sous diverses formes depuis le début des années 50, à la fois joueuse et rigoureuse.
Oh, ça y est, ça commence.
À peine on vient d'arriver que tu râles déjà.
Un camion, une vidéo, qu'est-ce qu'elle fait cette femme?
Mais tu le vois bien ce qu'elle fait, elle avance sur un camion, dans Vitry, puis dans Paris, entre le Macval et l'église Saint-Bernard pour être précise. Tu sais l'église dont des sans-papiers africains avaient été brutalement délogés par les CRS en 1996?
Oui, je sais, merci.
Bon, les tissus sur lesquels elle est assise sont emballés dans des couvre-lits coréens. Parce que cette femme vit à New York, mais elle est coréenne. Pour elle, les couvre-lits gardent la mémoire des êtres, de la vie à la mort. Le lit est lieu d'accouchement, d'amour, de rêve, de cauchemar et de mort. Tu comprends, Pascal? Pascal, tu m'écoutes?
Oui, Joséphine, oui, pardon.
Donc, je disais, dans les couvre-lits qui servent ici de baluchons, il y a des tissus collectés auprès d'Emmaüs, et ces tissus sont censés rendre compte de la diversité des communautés qui existent en Île-de-France. Manière, si tu veux, de parler de l'exil, du déracinement.
T'en sais des choses.
J'ai déjà vu une performance faite par Kim Souja en 1997. Cities on the Move, ça s'appelait. Elle parcourait 2727 kilomètres sur un camion. Elle a fait ça dans différentes villes du monde. La performance que tu vois là, elle l'a réalisée alors qu'elle était en résidence ici au Macval.
2727 kilomètres ? Waouh ! Une sorte de world movie.
Si tu veux. En art, on appelle ça une performance. Quand un artiste fait un geste artistique où il se met en scène lui-même. Ou bien quand il met en scène d'autres personnes. Une sorte de mélange entre le théâtre et les arts visuels.
Si je monte dans le camion, on appelle ça une performance ?
Ah, allez, viens, tu m'ennuies.
Vraiment pas beau, quand même.
Qu'est-ce que ça peut faire ?
Une œuvre, c'est fait pour être beau.
Moi, je trouve ça beau. Mais c'est pas la question.
Alors c'est quoi la question, madame Je-sais-tout ?
Ah, t'es vraiment pénible, parfois, Pascal. D'abord, je pense pas que Sarkis ait voulu faire une chose belle. Cette installation fait partie d'un processus qu'il a entamé à la fin des années 70 et qu'il a nommé Kriegsschatz, trésor de guerre. Il renvoie à l'idée de la guerre, des pillages culturels successifs faits en temps de guerre. Tu as regardé la peinture sur le bateau ?
Non.
Viens, on se rapproche. Tu vois ?
C'est du goudron. Et le mot qui s'inscrit sur les ampoules, c'est quoi ?
Une lettre sur chaque ampoule.
Trésor.
L'artiste a voulu faire quelque chose en rapport avec la mémoire collective, celle des cultures qui s'affrontent dans le temps de la guerre. C'est aussi ça, la guerre, une manière de rencontrer d'autres cultures, de s'en nourrir et de tenter de les faire disparaître. Mais Sarkis rend aussi compte de sa mémoire à lui, intime, profonde.
Comment ça ?
Il est né à Istanbul, mais il vit et travaille à Paris. Et donc à Istanbul, parfois on voit de grands navires arrimés sur le quai à côté des immeubles. C'est aussi ce qu'il montre. Tiens, tu as vu les deux photos là-bas ?
Oui.
Elles ont été faites par un photographe compatriote de Sarkis qui s'appelle Aragüler. Elle participe d'une série sur le monde du travail à Istanbul entre 1950 et 1990. C'est Sarkis qui a voulu qu'elle soit présentée là avec son installation. Il aime qu'à chaque présentation, ses œuvres soient montrées différemment, qu'elles bougent, qu'elles évoluent, qu'elles se transforment. Et qu'ici, par exemple, d'autres travaux soient montrés à côté du sien. Tu sais ce qu'il a dit un jour ?
Non.
Ma mémoire, c'est ma patrie. C'est glauque, mon Dieu, que c'est glauque!
Et pourquoi un tableau n'aurait pas le droit d'être glauque?
Attends, c'est toi qui dis ça? Non, mais je rêve, là! Vraiment, alors, mais n'importe quoi pourvu que ça te permette de me contredire!
Pas du tout. Il est fort, ce tableau.
Un paysage désolé, en feu, des potences, un ciel sale, des corps minuscules, la guerre...
Continue, gros malin, continue, je t'écoute.
Tu trouves que la peinture ne devrait jamais être violente?
C'est ça, mais fais-moi passer pour une idiote. Des millions de gens nous écoutent à travers cet audioguide et toi, tu voudrais me faire passer pour une idiote auprès de ces millions de gens. Mais Pascal, je sais bien qu'un tableau peut être dur, violent et que parfois même les artistes n'ont pas le choix parce que le monde est comme ça, dur, violent et qu'ils ne peuvent quand même pas fermer les yeux. Simplement, parfois, je suis lasse, tu comprends? Lasse, 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 lasse. Je voudrais de la beauté, je voudrais de la vie. Voilà.
Ma pauvre chérie, tu voudrais que cet artiste né à Belgrade en 1935, qui a connu enfant les atrocités commises par les nazis en Yougoslavie, qui en a été marqué à vie, qui depuis le début des années 60 se voue par nécessité à la peinture des corps déchirés, mutilés, tu voudrais que ce peintre, pour te faire plaisir, peigne, je ne sais pas, des chatons sur des pelouses au soleil.
Tu parles comme un livre, mon chéri, c'est merveilleux. Vraiment, elle te fait du bien, je trouve, cette visite au Macval.
Qu'est-ce que tu regardes, là?
C'est drôle. En fait, plus je vois ce tableau, plus je l'aime.
Ah, quand même.
Le paysage est tellement désolé. Je veux dire, il n'y a tellement presque rien qu'il est presque abstrait, parfois. Ou en tout cas, je le vois comme ça, abstrait. Tu trouves pas?
Si, si. En fait, ce tableau, c'est un peu comme moi.
Comment ça?
Eh ben, plus tu me vois et plus tu m'aimes.
Ah, bon, allez, tu m'énerves, viens. Un peu facile, je trouve.
Comment ça?
Ce que montrent ces deux artistes est simplement un ratage. Ils sont partis en 2006 du FRAC.
Du quoi?
Du Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de Loire, FRAC.
Ok.
Et leur idée, c'était de faire le tour de France à vélo, de manière à dessiner un cercle parfait. Ils ont dû s'arrêter au bout de 2 semaines, trop dur. C'est ça qu'ils montrent ici, des traces, des petites mises en scène de leur défaite, de leur ratage. Et je trouve que c'est lâche, que c'est simplement... glorifier leur incapacité à être des aventuriers, des vrais aventuriers.
Moi, je trouve ça très beau, et courageux aussi.
Tu te fous de ma gueule, là?
Non. Attends.
Dans les yeux de Pascal, soudain, une lueur surgit.
Regarde.
Quoi?
J'ai trouvé dans la librairie un extrait du journal de bord de Texador, pour une autre expédition que celle qui est présentée ici.
Mardi 1er octobre 2002, soir. Je sors mon téléphone et j'annonce fièrement à un ami de l'Assemblée que nous avons quitté. Nous sommes Place Royale, nous venons de parcourir 300 mètres des 750 kilomètres qui nous séparent de notre objectif. Il est environ 19h et nous quittons Nantes ce soir pour rallier Metz via Caen à pied, en ligne droite, juste aidé par une boussole. Pour l'instant, notre cap est à 22 degrés est, tout droit vers Caen. L'aventure commence. Nous avons sur le dos des équipements tout neufs, de grosses chaussures de montagne qui n'ont jamais vu un caillou, et des vêtements dont les plis sont encore visibles.
Tu vois, Joséphine?
Qu'est-ce que je suis censée voir?
Eh ben, qu'il peut y avoir des ratages dignes d'être montrés ou mis en scène. Parce qu'il y a quand même la réalisation d'une idée folle, inouïe, incongrue. Et que c'est ça aussi l'art, Joséphine, faire des choses que personne ne voudrait faire, ne penserait à faire, et ensuite montrer d'une manière ou d'une autre ce qu'on a fait, rendre visible ce qu'on a fait, même si c'est raté. Des aventuriers, des explorateurs à la petite semaine, mais des aventuriers quand même.
Laisse tomber, Pascal. De toute façon, je crois bien qu'être aventurier aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible.
En tout cas, visiter le Macval avec toi, c'est toute une aventure. Qu'est-ce qui se passe? T'es toute pâle?
Je me sens pas bien. Pourtant, j'aime les îles d'habitude, tu le sais.
Oui. Ceci dit, ce que tu vois là, c'est pas vraiment une île. C'est une île de pacotille, en plein dans un musée. C'est peut-être pour ça que tu te sens pas bien. Tout est déplacé, transformé, tout est froid.
Un morceau d'appartement écroulé.
Par exemple.
On était tellement bien, tellement heureux à Porquerolles, tu te souviens?
Oh là là là, oui.
Un morceau d'appartement écroulé avec tous ses vêtements et personne. Personne, c'est terrible. Je veux dire, ce que ces vêtements nous montrent, c'est que des gens ont disparu. Tu sais, je suis sûre que ce sont des naufragés. Des naufragés de la vie quotidienne. Et ces néons, c'est terrible.
Tu t'imagines des choses, là, Joséphine. Tu interprètes, tu délires. Allez, ne pleure pas.
Mais non, je t'assure que je délire pas, que j'interprète pas. Une île, normalement, si c'était vraiment une île, je devrais être transportée de joie, je devrais être ailleurs. Loin, avec des soleils, des cocotiers, avec des mecs super bronzés, torse nu, musclés. Je devrais être heureuse, Pascal.
Oh, ça va.
Mais là, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. L'artiste prend l'image, la forme d'une île, une image, disons, moderne du bonheur, ou en tout cas de l'aventure, et paf, il renverse tout. Et on se retrouve avec un truc miteux.
Viens, Joséphine, viens, on va aller voir autre chose. Quand même, c'est marrant, je trouve, ce déplacement, le fait qu'une île devienne autre chose, l'envers même de l'idée qu'on a d'une île. Tu trouves pas ?
Non.
Bon, viens. Je comprends rien à ce truc.
Ça fait 7 secondes qu'on est là, Pascal. Comment tu voudrais avoir le temps de comprendre en 7 secondes ? T'es pas obligé, de toute façon. Tu peux simplement prendre. C'est-à-dire sentir, recevoir ce qui arrive devant tes yeux et dans tes oreilles.
Il n'y a rien dans l'audio guide ?
Si, mais vaut mieux d'abord regarder, entendre par soi-même, je trouve. Un texte d'audio guide te donnera de toute façon pas tout, jamais. Une part du savoir vient de toi, tu sais.
C'est quoi ? Une sculpture ?
Une sculpture sonore, oui. Regarde la valise, elle est modifiée, tu entends ? En fait, je crois que je sais. À l'intérieur de cette valise, il y a des sons enregistrés pendant des voyages de Davide Balula. C'est une boîte noire, cette valise. Elle garde et restitue la mémoire des voyages. Davide Balula est aussi musicien. Et il mêle cette expérience à un travail d'artiste. Il nous donne à entendre et à voir.
Compliqué.
Mais qu'est-ce qui te gêne ?
Tous ces efforts qu'il faut faire.
Pas tant que ça, je trouve. De toute façon, un travail artistique, c'est pas un message publicitaire ou politique avec un sens unique, indiscutable, qu'on nous assène. C'est une forme singulière, nouvelle, parfois complexe, qui ne donne pas tout, qui ne s'impose pas, mais qui te demande de participer, de t'activer, de donner du temps, d'être partie prenante.
Tu me prends pour un débile ou quoi ?
Mais tu aimes bien réfléchir d'habitude, alors pourquoi pas devant un travail artistique ?
C'est sensible, un travail artistique, pas intellectuel, sensible.
Pas seulement. Jamais seulement. C'est un mélange d'intelligence et de sensibilité. Comme toi, Pascal. Exactement comme toi.
Ah bon ? C'est vrai ? Comme moi ? Mais ça représente rien, ce truc.
Et toi, qu'est-ce que tu représentes ?
Comment ça ?
Tu dis que ce relief représente rien, mais toi, qu'est-ce que tu représentes ?
Tu dis relief, pas sculpture ou peinture ?
Comme justement cet objet n'est ni vraiment de l'ordre de la peinture, ni de la sculpture, et qu'il est en 3 dimensions, on peut l'appeler relief. Mais réponds à ma question, toi, qu'est-ce que tu représentes ?
Moi ? Rien, je représente rien. Enfin, je crois, je suis moi, Pascal, c'est tout.
Eh ben, ce relief, c'est la même chose. Il représente rien, il est lui-même, c'est tout.
Tu te fous de moi, là ?
Pas du tout, il y a des œuvres d'art qui sont comme ça, autonomes, qui ne valent que par elles-mêmes, qui ne peuvent en quelque sorte compter que sur leur propre force.
Quand même, Joséphine, je m'ennuie, voilà, c'est ça. Je m'ennuie.
En fait, ce que veut Hervé Télémaque, c'est inventer une forme qui a un rapport avec le lieu où il est né, Haïti. Mais un rapport lointain, et en même temps faire de la peinture.
Comment ça, un rapport lointain ?
Les fragments ici sont comme des souvenirs. Tu sais, parfois, on se souvient que par bribes, eh ben ici, c'est la même chose. Télémaque se souvient d'objets, de formes vues à Haïti, et le souvenir lui revient, mais par bribes, qu'il assemble pour construire un autre objet, une autre forme. Cet homme est peintre et sculpteur. Il vit et travaille à Paris depuis 1961, et souvent, il fait des choses qui ont un rapport avec ce lieu, Haïti. Là, il découpe des formes dans le bois à la scie sauteuse, et puis il assemble.
De la peinture en morceaux.
Et en relief, oui.
Joséphine.
Oui ?
Est-ce que tu trouves que, par exemple, moi aussi, je suis en relief et en petits morceaux ?
En relief, en tout cas, c'est sûr.
Ces photos n'ont pas de nom. Et l'artiste ne dit pas où elles ont été faites, ni quand. Et elles font partie d'une série qui, elle non plus, n'a pas de nom. Et je dois me débrouiller seule avec ça. Surtout que Joséphine est partie boire un café et que pour une fois, elle n'est pas là pour m'orienter. Mais ce que je vois tout de suite, c'est qu'elles ont été prises à divers endroits du monde, ces photos, et que l'homme qui les a faites ne veut pas raconter d'histoire, simplement montrer des lieux dans lesquels moi, je n'ai jamais mis les pieds. Du moins, je crois. Et toujours vide. Jamais personne. Pas un chat dans ces photos.
Pourtant, j'ai assez souvent l'impression que pas loin se trouvent des êtres, et qu'il n'y a pas longtemps ils étaient là, et que dans pas longtemps, à nouveau, ils seront là. Et moi, en un sens, on peut dire que je bouge pas. Je veux dire, impossible de plonger dans le monde de ces photos, de m'évader, de voyager comme je le ferais avec des photos, disons, exotiques ou touristiques. Elles n'ont pas l'aspect spectaculaire des clichés du bout du monde. Elles ne montrent pas de monuments ou de paysages grandioses ou d'autochtones pittoresques. D'ailleurs, elles ne montrent pas. Elles regardent. Elles regardent avec attention. C'est plus simple, plus discret. Et moi, je suis obligé de rester là, avec la conscience que je suis là, en même temps que je regarde ces photos prises ailleurs. Alors, où je suis ? Où je suis, nom de Dieu ? Ici et ailleurs. Ailleurs avec ma conscience d'ici. Ici avec ma conscience d'ailleurs. L'artiste s'appelle Melik Ohanian. Il est français, mais son nom vient d'Arménie. Et je me dis qu'il a sans doute alors conscience d'appartenir à l'histoire de la diaspora arménienne. Et qu'il doit prendre ses photos avec cette conscience-là. La même conscience que moi. Être ici et ailleurs dans le même temps.
Alors Pascal, on philosophe ?
Oh non ! Oh non, mais alors... Joséphine, tu m'as fait peur.
Une intervention de 11 jours dans le paysage américain. Un convoi de 3 camions de déménagement loués qui traverse le pays d'est en ouest. Ah, si je dis ça à Pascal, il va encore me répondre qu'il aurait pu le faire, lui aussi. Ou un truc du genre. Il faudrait alors le convaincre que lui n'aurait jamais eu le courage de le faire, la force de l'inventer. Que la pertinence d'un travail ne se mesure pas forcément à la difficulté à le faire. Ah non, vaut mieux que je me taise. Parfois j'ai l'impression d'être tellement pénible avec lui. Ou alors je pourrais tenter de parler d'Alain Bublex. Du fait que cet homme a travaillé 10 ans comme designer chez Renault, puis qu'il a développé un travail artistique dans lequel il met en jeu de nombreux médiums. L'architecture, le dessin, la vidéo, le design, la photo. Dans le but de regarder le monde changer, le monde comme chantier. Ensuite, je pourrais rapporter des propos que je tiens de la bouche d'Alain Bublex lui-même, parce qu'un soir, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il disait qu'aux États-Unis, la métaphore de l'histoire provient du paysage lui-même, pas des constructions humaines. Que pour cette raison, la route dans ce pays est un lieu à part entière, pas un espace vide entre deux endroits. L'idée qui présidait à l'intervention d'Alain Bublex était d'ajouter un signe dans le paysage qui puisse en révéler la nature métaphorique. Et que cette intervention était en relation avec la conquête de l'Ouest, mais aussi avec l'exode des années 30. Et je suis sûre que Pascal comprendrait. Il n'est quand même pas si buté qu'il en a l'air. Mais il faut que je me taise. Pour une fois, faut que j'apprenne à me taire.
Alors, te voilà mutique, Joséphine. Qu'est-ce qui se passe ? C'est découpé à la tronçonneuse.
Comment tu vois ça ?
Question scie, tronçonneuse et tout le barda, tu peux me faire confiance ?
Ouais.
Pas très africain, la tronçonneuse.
Quoi ?
Barthélémy Togo est africain. Et il pourrait utiliser des instruments, je sais pas, plus africains, plus traditionnels, plus proches de ses racines.
Ses racines ? Mais tu vas pas bien, Pascal. Cet homme n'est quand même pas une salade. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu dis ? Les hommes sont pas des salades ou des arbres ou des plantes ou je sais pas quoi. Ils ont pas de racines.
Excuse-moi, j'ai rien dit. Parfois, je sais pas ce qui me prend, je suis juste un gros minable.
L'artiste a peut-être joué avec ça d'ailleurs, avec ta petite vision ethnocentriste. Il a peut-être utilisé la tronçonneuse par ironie. Tu peux me lire ce qui est écrit sur la notice du catalogue ?
Mais bien sûr. L'artiste a réalisé 3 tables avec 11 tampons chacune en partant des 33 pages d'empreintes de tampons sur son passeport. World Climax 1, 2 et 3. Le Magval possède la 3e de ces tables. Des estampes peuvent être montrées en regard des tables sur lesquelles les empreintes sont lisibles. Visa,
Ausländer Behörde.
Ausländer Behörde.
Aufenthaltsbewilligung.
Mais laisse-moi lire. Entry prohibit, nationality, United Kingdom, Charles de Gaulle Roissy, annulé, police nationale.
Gültig für.
Oh, ça va.
Quand t'es nul en allemand, j'y peux rien.
Transit sans arrêt,
Natif du Cameroun mais nomade, l'artiste a étudié à Abidjan, à Grenoble et à Düsseldorf. Ça va là pour l'allemand ? À travers des installations aux formes et aux procédés les plus divers, sculptures, vidéos, dessins et interventions, il met en scène les différentes expériences qu'il a connues ou suscitées et qui, chacune à sa façon, traduisent la difficulté à aborder une nouvelle culture tout en portant sur soi celle d'où l'on vient. Qu'un homme soit blanc, noir, jaune, dit-il, peu importe, il est de toute façon un être potentiellement exilé.
C'est beau.
Exilé, c'est ça. Non mais alors, tu sais quoi ? C'est exactement le mot que je cherchais pour décrire ce que j'éprouve en étant ici, dans un musée d'art contemporain. Exilé. Allez, viens, retournons à la maison, Joséphine, avec les DVD de notre tradition culturelle. Viens.
Ah, trop tôt, Pascal, on a encore beaucoup de choses à voir.
Oh.
Moins les personnages restent les figures, moins le montage reste le plan, moins la parole reste la musique, moins le son reste la musique, moins le film reste le mouvement, moins le jeu reste les actes, moins les actes restent les gestes, moins la psychologie reste les gestes, moins la psychologie reste les expressions, moins les comportements restent les détails, moins l'histoire reste l'apparition, moins l'histoire reste la disparition. Moins l'histoire reste la rêverie, moins les explications restent les moments, moins les discours restent les moments, moins les paroles restent les regards omis à peine, moins les passants, les habitants restent les paysages, moins le drame reste le banal, moins le visage reste une silhouette qui glisse et s'enfuit dans la nuit, moins le western reste un cow-boy usé en panoplie de portier, moins la technologie reste un tourne-disque hors d'état. Moins la nostalgie reste parfois des traces du passé pour flotter à la surface du réel. Moins le clip reste la durée. Moins le skateboard. Moins la veste. Moins le dénouement reste un autre monde. Moins les uniformes restent les hommes. Moins la communauté reste les individus. Moins les autres reste la solitude. Moins les rapports reste la solitude. Et chacun s'en retourne à sa vie. Et chacun s'en retourne à sa vie. Et chacun s'en retourne à sa vie.
Texte lu par l'artiste.
Sur la photo, c'est l'artiste.
Oui.
Encore. Il y a déjà eu Kim Souja, Poncheval et Tixador. Est-ce que les artistes d'aujourd'hui sont devenus des comédiens ? Des petites figures narcissiques incapables de faire de l'art, vraiment de l'art, et qui se mettent en scène avec leurs petits moi, leurs petits ratages, leurs petits déguisements.
L'autoportrait en art n'est pas vraiment une chose nouvelle, Pascal.
Oui, mais là...
Écoute ce que dit Nathalie Talek.
Le froid reste une thématique dont je ne suis pas en mesure d'expliciter les origines, sinon qu'à la fois il exprime ce qui serait de l'ordre de la sensation et qu'il produit, comme l'exprime Kepler, l'état nécessaire à l'apparition d'un motif fugace, le flocon de neige, qui reste dans l'ordre de la nature le seul motif proche du rien. Il est donc bien question d'un moi qui s'efface et tenterait de se confronter au rien.
Et donc ?
Donc en un sens, elle raconte le contraire de ce que tu penses. Un moi qui s'efface. Elle veut pas apparaître, elle veut plutôt disparaître pour faire émerger un double artistique.
Tu cherches encore à m'embrouiller, là ?
Mais tu le vois bien qu'elle joue un jeu, qu'elle porte un masque. Dans les années 80, elle avait mis en place une méthode d'investigation de contrées dans lesquelles jamais elle n'avait mis les pieds. Le pôle Nord, par exemple. Il s'agissait de lire des textes anthropologiques, philosophiques et scientifiques, puis de les utiliser pour faire des photos, des performances enregistrées ou non, des explorations rêvées, des simulacres. Une manière de rejouer les explorateurs quand les explorateurs ont disparu, quand l'exploration ou l'aventure ne sont plus possibles. L'unique voyage réel qu'elle s'est autorisé, c'était au Groenland en 1988.
Ouais, elle a fait d'autres choses depuis ?
Des tas de choses ! Des performances, de l'escalade, des chansons, de l'aquarelle, du mobilier urbain, de la vidéo, et je sais plus, j'en oublie.
Ça existe vraiment, tu crois, un détecteur d'aurore boréale ?
Oui, mais sur la photo, c'est pas un vrai détecteur d'aurore boréale. Ça fait partie du jeu. Elle invente des machines comme elle invente un personnage, des voyages.
Comme moi, quand je joue au foot, et que j'invente que je suis Diego Maradona, et que je joue comme lui.
Non, mon lapin. C'est pas de l'invention, ça, c'est juste du délire.
C'est un
41, 42, 41, 45.
Quoi?
J'ai bien recompté, il y a 45 photos.
Ah, ce sont plus des photos alors, plus seulement. Elles forment une installation.
Comment ça, une installation?
Tu vois bien, une sorte de frise. Mais une frise sans ordre de lecture. Les images ne se contentent pas d'être là, elles prennent l'espace, elles jouent avec lui. En art, une installation est une pièce constituée de plusieurs médiums qui prend l'espace, qui joue avec lui.
Pourquoi faire?
Oh, écoute.
Quoi?
Là-haut, t'entends pas?
Je suis la voix qui porte la parole d'Elina Broterus. Elina Broterus dit « Quand j'étais petite, j'ai joué une pièce pour piano à quatre mains d'Eric Satie, aperçu désagréable. Dans mon enfance, je ne comprenais pas le français. C'était donc les traductions un peu libres de la femme de mon professeur de piano, que j'avais gardé en mémoire, comme « large de vue », qui a donné le titre à toute l'œuvre. Je l'avais depuis toujours associée à un paysage, une vaste étendue, où le regard peut se promener. C'est seulement après 7 années passées en France que j'ai compris que cela se dit d'une personne, pour décrire son état d'esprit ou son caractère. Ainsi, dans cette œuvre s'unissent mes deux pays, et de multiples points de vue. J'y revisite tous les thèmes qui me sont chers, les réflexions sur le paysage, l'écoulement du temps, la solitude, l'amour.
Réalisée une première fois en 1994, cette pièce a été réactualisée en 2009 pour le Macval. Dans ce tunnel, il est impossible d'entrer, impossible de passer. Du reste, la forme n'y incite pas. Bloc noir opaque, donc, forme inouïe qui s'impose à l'espace, entre le réel et l'abstraction. Pour un peu, on pourrait même dire un dessin, mais un dessin en 3 dimensions. C'est que depuis le début des années 90, Delphine Coindet met en jeu un protocole de travail singulier. Dessin sur ordinateur, puis transformation en sculpture par des fabricants industriels. Ces sculptures viennent de dessins d'objets réels ou bien de formes abstraites. Ici, Delphine Coindet joue dans l'entre-deux. Pour autant, il ne s'agit jamais de réalisme. Texture, matière ou monumentalité donnent à l'objet un aspect virtuel. Et le vide devient plein. Et l'objet familier, un signe monumental. Et la sculpture est image. Et l'image est sculpture. Mais le tunnel n'est pas un objet, le tunnel est un espace, un lieu de passage. Il transforme en partie l'espace d'exposition et nous pose cette étrange question. Mais où sommes-nous à la fin? Dans un monde réel? Dans un monde virtuel? Dans un monde réel devenu virtuel? Dans un monde virtuel devenu réel? Sommes-nous sortis d'un dessin, d'un ordinateur? Sommes-nous en train de passer dans un autre monde? D'ailleurs, sommes-nous encore réels? Et ce tunnel qui ne va nulle part, dans lequel on ne peut pas entrer, par lequel on ne peut pas passer, duquel nous pouvons simplement faire le tour, ce tunnel qui ne prend pas seulement l'espace mais aussi le temps, son temps à lui, le temps de son déroulement et notre temps à nous, celui de l'exploration de toutes ses facettes. Où donc nous mène-t-il ce tunnel? Mais où donc sommes-nous à la fin?
La photo? Le monde réel sur la photo paraît tellement vieux, je trouve. Ce sont pas les tours qui font vieillir les jardinets, les pavillons, du moins pas seulement, c'est le dessin. Ce type de dessin réalisé à l'ordinateur qui fait vieillir la photo.
Il y a 150 ans à peine, c'était le contraire. La photo avait fait vieillir le dessin.
Tout change tellement vite.
T'en as d'autres, des clichés comme ça?
Oh, écoute, j'y ai bien le droit de temps en temps, moi aussi.
Mais oui, mon amour, mais bien sûr.
Ne me touche pas, Pascal, on est dans un musée quand même.
Tu la connais, cette artiste?
J'ai déjà vu des choses d'elle, oui. C'est une jeune femme qui travaille par série, elle fait surtout des paysages, avec de la peinture parfois.
Ces tours si vides.
Des façades de tours, plutôt. Ou alors des tours désossées, ou alors des plans, des dessins d'architectes. Elles ont été ajoutées dans des paysages de Seine-Saint-Denis et du Québec. L'artiste dit...
Ce qui m'intéresse, c'est comment on se projette dans un paysage.
Je comprends pas.
Gwen Rouvillois prend des photos. Elle projette les tours par dessin sur ses photos. C'est-à-dire qu'elle s'approprie un espace réel en le modifiant, d'accord?
D'accord.
Le fait qu'elle le modifie, cet espace réel, mais en fabriquant du vide, autant de vide que de plein, t'incite à ton tour à te projeter, à le modifier par l'imagination.
Entrer dans l'image?
Si tu veux. Il y a des images dans lesquelles tu peux entrer parce qu'elles te laissent de la place, et d'autres qui au contraire te tiennent à distance parce qu'elles sont pleines.
Je suis pas au bout de mes peines, moi.
Ni au bout de tes plaisirs. Viens, Pascal.
Depuis 1984, Jérôme Basserode travaille avec l'organique. Cette sculpture est la première d'une série entamée en 1992. À chaque fois, il s'agit d'objets meubles dont les tiroirs sont remplis d'éléments végétaux. Sculpture et série portent le même nom, Dalit, qui en hindi signifie intouchable. En Inde, le mot décrit une caste, celle des plus pauvres. Déplacé, il pose question. Qu'est-ce qui est intouchable ici? La pièce? Le tiroir que la plante empêche de fermer? Les deux? Autre chose? En tout cas, une série d'oppositions se fait jour, semble même structurer la pièce. Intouchable et tactile, intérieur et extérieur, naturel et manufacturé. Enfin, dans le domestique incarné par le meuble, l'artiste introduit la nature. Dans les tiroirs, on trouve du buis, de la paraffine, de la terre, de la cire ou des pigments. Ces éléments ont en commun d'évoluer avec le temps, de colorer les tiroirs de bois clair. Ainsi, la sculpture est-elle en constante évolution et réclame-t-elle un entretien? En regardant de plus près encore, on découvre des plaques de zinc, puis, sous la paraffine, des crayons en bois à mine de carbone. L'outil est dans l'œuvre, inutilisable. Contradictoire, multiple et poétique, cette œuvre rappelle les objets surréalistes inventés dans l'entre-deux-guerres. Au pied du quartier de Bab El Oued à Alger, il existe une digue composée de blocs de béton que les jeunes utilisent comme plage. Ils la nomment Rocher Carré. De longues heures durant, ils viennent y contempler les bateaux qui naviguent entre la France et l'Algérie. Parfois, ils y rêvent d'une vie meilleure. Selon Kader Atia, pourtant, cette architecture bétonnée porte moins les rêves qu'elle ne symbolise l'enfermement. Ici, il assemble les 9 photographies de manière à ce qu'elles forment un mur. Et la forme alors rejoint le contenu. Chaque photographie est elle-même un bloc. Et devant nous, ces blocs devenus verticaux laissent paraître l'horizon d'Alger, mais par fragments lointains. Cette architecture renvoie d'ailleurs à l'urbanisme froid de certaines banlieues françaises. Écoutons ce que l'artiste écrit.
La difficile existence de ces jeunes Algériens me rappelle celle des jeunes de banlieue française. Même absence d'espoir en l'avenir, même misère sexuelle, même frustration, même manque de reconnaissance sociale, même perte d'identité, même sentiment d'échec, même souffrance. À ce niveau, la frontière n'existe plus. La pauvreté, comme la perte d'identité, n'a pas de frontière. Elle est globale.
À quoi songe Anicetto, tandis qu'il nous regarde? Par-dessus sa tête, des hommes en costume sombre s'agitent dans une ville où les immeubles et les arbres penchés se ressemblent. Et les hommes, eux, ressemblent à Anicetto, lui-même stéréotype de l'Argentin. Tous semblent avoir du mal à marcher. Les variations d'échelle accentuent le burlesque, l'étrangeté, le grotesque. Un songe dense, sombre, agité. Un songe qui fait de la ville un espace masculin où les choses se répètent. L'humour ici est noir. Ce songe contraste avec la clarté vide au bas du tableau. Ainsi, l'image se partage-t-elle entre le peint et le non-peint, entre le plein et le non-plein. Faussement naïf, le peintre argentin Antonio Seguí emprunte comme souvent à divers registres. Bande dessinée, caricature ou peinture expressionniste, par exemple. Voyageur, il s'installe définitivement à Paris en 1963. Le tableau, lui, est réalisé en 1984. La dictature en Argentine vient alors de chuter. Pour la première fois depuis 10 ans, l'artiste peut revenir dans son pays natal. Est-ce donc à la dictature que songe Anicetto? À ce qui lui succède? Comme souvent dans les tableaux d'Antonio Seguí, les choses restent énigmatiques, car comme le dit le titre d'une série, à vous de faire l'histoire.
Quand même, je préfère les tableaux classiques. Avec des couleurs vives, avec des scènes, avec des histoires pas possibles. Mais je peux pas le dire à Joséphine. Elle serait déçue. Ou bien elle me prendrait pour une quiche. Ou bien elle me traiterait de réac nostalgique et tout le blabla. Elle est là, juste à 10 cm de moi, et elle regarde, mais je vais me taire. Je vais faire mine de regarder avec intérêt, moi aussi. Sinon, on en a encore pour des plombs. Pas qu'il soit mal fait, ou laid, ou idiot, ce tableau. C'est même tout le contraire. Il est fabriqué avec une technique complexe qui devrait me laisser pantois, parce que j'admire toujours la complexité des techniques. L'artiste photographie ses sujets, ou bien les films en vidéo, puis photographie les images diffusées par le moniteur.
Ensuite, il les projette tels quels ou retravaillés, réassemblés sur de la toile ou du bois. Alors, il dépose sur ce support une peinture faite de cire d'abeille et de pigments, puis recouvre la toile d'un film plastique, passe dessus un fer à repasser qui chauffe la cire, la liquéfie, et modifie les formes et les étale. Ensuite, il décolle le film plastique, ce qui donne lieu à des arrachages. Tout ça fait que les sujets paraissent tordus, fondus, imprécis, troublés et flous. Flous comme parfois sont flous les photos. Philippe Cogné peint à partir d'un tas d'images des foules, des objets, des supermarchés, des cabanes de chantier, et maintenant même des vues trouvées sur Google Earth. Toujours des choses banales, toujours en grand format. C'est en tout cas ce que Joséphine m'a raconté. Et même si cette image me trouble, même si je ne sais pas d'où elle vient, de cette technique que j'admire tant ou du cerveau de l'artiste, faut bien l'avouer, même si ça me rend un peu triste, quand même, je préfère les tableaux classiques.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Qu'est-ce que j'en pense ? J'adore.
Pour réaliser ce travail, Françoise Petrovitch demande à 50 personnes de raconter des souvenirs de vacances. À chaque fois, peu ou prou 15 minutes. Ensuite, elle prend des photographies sur lesquelles elle dessine, puis en tire des diapositives. Un comédien lit les souvenirs, puis l'enregistrement d'un récit de souvenirs est mis en rapport avec une image. Nous voici donc face à une installation multimédia qui joue avec l'un de nos pires cauchemars, le récit de vacances, la soirée diapositive. Car, comme le dit justement le titre, les vacances des autres n'intéressent personne. « Je n'aime pas les grands thèmes », dit l'artiste. Ici, il s'agit donc de jouer avec l'intime, mais avec un intime qui justement demande à être vu, montré, raconté, fictionné, rendu public. Celui qui raconte ses vacances, celui-là s'oblige en effet à devenir public, héros d'une petite fiction merveilleuse dont il est le créateur et qu'il nous impose d'écouter. Car tout souvenir est une fiction, n'est-ce pas ? Ici pourtant, la dimension intime est constamment perturbée, constamment renvoyée à son statut de fiction. Car de l'intimité, il y en a tellement qu'il n'y en a plus du tout, ou presque plus. Sur la multiplicité des récits, Françoise Petrovitch fabrique des photos fictives, puis des dessins qui fatalement sont encore des fictions. L'installation alors met en scène le monde d'aujourd'hui. Ce monde dans lequel chaque petite expérience, chaque petite aventure exige d'être rendue publique. Mais aussi, cette installation, c'est de l'archéologie. La soirée diapositive, c'est en effet déjà de la préhistoire, celle de Facebook, d'Internet et des blogs à n'en plus finir.
Quand même, beaucoup de vidéos ici. Je me demande ce que ça fait dans un musée, toutes ces vidéos.
Est-ce que tu peux être pénible, Pascal, et obsessionnel en plus ?
Mais non, Joséphine, je pose des questions, c'est tout. C'est pas toi qui m'as dit d'être curieux ? Et je vois pas en quoi ça te dérange que je pose des questions. Simplement, je sais pas si ces vidéos ne devraient pas être plutôt montrées à la télé, ou sur le web, ou au cinéma, plutôt que dans un musée.
Tu crois vraiment qu'on pourrait voir un travail comme celui-ci à la télé ou au cinéma ?
Non, c'est vrai.
Et le web permet rarement qu'on voit les films dans de bonnes conditions. Donc un musée est idéal pour accueillir certaines formes qu'on pourrait pas voir ailleurs parce qu'elles sont, disons, trop expérimentales, trop étranges, trop risquées.
Vraiment, c'est lent quand même.
Valérie Jouve dit
« Le sujet de ce film sera le temps, ou plus exactement les différents temps qui composent notre quotidien aujourd'hui. »
Et ?
En fait, on lui a fait une commande. On lui a demandé de traiter le passage du TGV à travers le territoire hollandais. Et ce qu'elle veut, c'est trouver un équivalent physique, émotif, dans les images, le montage, à la manière dont l'arrivée d'une ligne TGV modifie l'espace, les vies, le temps. À la manière dont un paysage disparaît pour un autre, qui va modifier le temps et le rapport au temps.
Je comprends pas.
Elle cherche à traduire les émotions qui lui viennent quand elle pense à tout ce qu'implique l'arrivée d'une ligne TGV.
Il n'y a pas de personnages, seulement des foules et pas d'histoire. Vraiment pas possible.
Parfois, Pascal, tu me fais pitié tellement tu es digne de pitié. Ce que veut montrer Valérie Jouve, c'est un territoire. Le personnage de ce film, si vraiment il te faut un personnage, c'est ça, le territoire. Et l'histoire, c'est l'histoire de son changement. Ça te va comme ça, monsieur Dingue d'Hollywood ? Ah, on a déjà vu un travail d'Alain Bublex, tu te souviens ?
Je commence à confondre les œuvres, tu sais.
Mais c'était la vidéo dans laquelle un camion traversait les États-Unis.
Ah ouais.
Ici, des photos de chantier et de leur mise en œuvre. Grue, algéco, palissade, camion. Et puis le plan d'une ville imaginaire. J'ai déjà vu ce plan à Beaubourg. Il a été fait par un membre d'un groupe d'architectes utopistes anglais des années 60, appelé Archigram. Son nom est là, au bas du plan. Peter Cook.
Ah ouais. Mais alors, il pique le travail des autres, ce Alain Bublex.
Pas vraiment, c'est plutôt une citation. Et puis avec ses photos, il donne corps au projet, il met la ville en mouvement, il lui donne des images et donc du concret.
Quand même, c'est gonflé.
Mais toute l'histoire de l'art et de la pensée, tu peux la voir comme ça, une histoire de vol. Pour faire vivre une œuvre, un artiste doit piller, emprunter, se nourrir du travail des autres. Même si, comme c'est le cas ici, ces autres ne sont pas artistes mais architectes. Je suis sûre que tu le fais toi aussi dans ton boulot de graphiste.
Ouais, parfois, mais enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette ville ?
Plug-in City, une ville imaginaire, faite de branchements, où les éléments se connectent les uns aux autres, prolifèrent à partir du haut. Tu as vu que cette ville part du haut et non pas du bas comme dans la réalité. C'est ça, ce départ du haut qui permet la prolifération.
Tout ça pour un chantier de toute façon.
Le monde est un chantier permanent, Pascal. Et toi aussi, et moi aussi, et l'art aussi. Alain Bublex aime bien les chantiers d'ailleurs. Il dit ça, écoute.
Normalement, l'Algéco est vécu comme un mal nécessaire à la construction. Mais mon regard sur eux a changé. J'ai une vision très romantique du chantier. C'est la blessure du temps, l'idée d'un monde en transition.
Reviens, s'il te plaît. Écrite en police de caractère K, l'enseigne se déploie dans l'espace, réagit au mouvement des corps. Les lettres, elles, sont assemblées en tubes de néon fluorescents. Selon les artistes, c'est la manière la plus économique de fabriquer une enseigne. Les tubes, enfin, renvoient à des lieux qu'ils nomment disciplinaires. Écoles, usines, hôpitaux, etc. Reviens, s'il te plaît. Le sens est multiple. Parodie de messages adressés aux consommateurs lorsqu'ils quittent un magasin. Ou bien, phrase d'amoureux au temps de la rupture. Mais cette installation, il est aussi possible de la lire comme une perturbation, le mix des deux sens. S'il utilise le néon, l'amoureux part ses mots des atours du commerce, de la publicité. Le magasin, lui, devient sentimental. S'il te plaît, reviens. L'aspect froid, monumental de l'œuvre, cependant, contredit la fragilité supposée du message. Claire Fontaine est le nom d'un collectif d'artistes né d'un constat d'impuissance, d'une volonté d'agir politiquement à l'intérieur même du champ de l'art. Claire Fontaine est donc un nom, une fiction travaillée par une pratique vive, pessimiste et pourtant animée d'un espoir de changer les choses. Qu'on écoute ce qu'en disent les artistes.
On croit aujourd'hui que les affects sont une affaire privée et personnelle, alors qu'ils sont le lieu que le gouvernement global a choisi de coloniser, par la marchandise ou par la terreur.
Et plus loin, Claire Fontaine évoque
la possibilité de découvrir que nous sommes tous des singularités quelconques, également aimables et effroyables, prisonniers des mailles du pouvoir, en attente d'une insurrection qui nous permette de nous changer nous-mêmes.
Tiens, un groupe, si on le suivait.
Nous sommes les héros de cet audioguide et tu voudrais qu'on suive un groupe comme de vulgaires visiteurs ? Bon, remarque, oui, ça nous délasserait.
Depuis 1997, Tatiana Trouvé travaille principalement à la réalisation d'une œuvre, dont nous voyons ici une maquette. Le Bureau d'activité implicite, BAI. C'est un ensemble divisé en modules qui ne cesse de proliférer. C'est une métaphore du travail ou du cerveau. Elle dit que pendant des années, son travail a été inexistant. Ce n'était que projet, titre et idées par un carnet. Elle dit que le bureau est venu comme une carapace, un lieu de stockage et de visibilité de ces choses. Un cerveau.
Excusez-moi, mais quoi comme activité ?
On ne sait pas. On ne voit pas. Ça réfère à sa vie, à des événements, à des pensées de sa vie. C'est pour ça qu'elle appelle ça implicite. Et il y a deux femmes chez Tatiana Trouvé, celle qui construit et celle qui rêve. Vous vous souvenez de ce petit ascenseur que nous avons croisé en début de visite ?
Oui.
C'est une excroissance du BAI, un espace de vie artificielle qui a pris son indépendance. Tatiana Trouvé appelle ça un pôle d'air en référence aux structures hollandaises qui permettent de gagner de la terre sur la mer. Les pôles d'air se déploient seuls ou en colonies, Ils sont nomades. Ils s'immiscent dans l'architecture du lieu. Et de la place de l'artiste là-dedans, de l'espace qu'il doit prendre, des fictions secrètes qu'il invente, et de la difficulté à faire. Mais si vous le voulez bien, passons maintenant à l'œuvre suivante.
Des habitants du Val-de-Marne, photographiés dans des appartements, des jardins, des ateliers, dans la rue, dans toutes sortes de lieux possibles. Des gens dans des espaces qui leur sont propres. Une commande du Conseil général. L'artiste se demande comment les gens habitaient en 1986. Quand Sabine Weiss a fait ses photos, elle voulait qu'elles puissent être regardées plus tard, au moins 20 ans après, qu'elles prennent de la valeur par le biais de la documentation. Ce sont ces mots, par le biais de la documentation.
Maman, maman, regarde, la télé est en feu. Ah non, maman, je me suis trompée. La télé en feu, c'est débile comme idée. Je dirais plutôt que l'écran se transforme en surface picturale. Presque un tableau. Mais un tableau mouvant. Matériel et immatériel tout à la fois. Du coup, l'image acquiert un statut paradoxal. Tu comprends, maman? Le statut de cette image est trouble. Qu'est-ce que c'est pour toi? Un tableau? Une image de télévision? Une publicité? Comme on pourrait en voir dans la vitrine d'un marchand de meubles? Ou alors, cette image est une métaphore de l'image, comme source de tromperie et d'illusion, comme dans le mythe de la caverne de Platon. Comme nombre d'artistes depuis les années 60, depuis l'apogée de la société de consommation, Kloski est conscient que l'œuvre d'art est avant tout devenue marchandise. Et il joue avec cette conscience. Empruntant au monde des médias et de la communication, l'œuvre de Claude Kloski investit toutes sortes de formes. Dessins, collages, livres, vidéos, photos, papier peint, dispositifs sonores, sites internet, qui en déjouent le sens. Maman, maman, est-ce que ça va? Tu es tellement pâle.
Je lis ce qu'il y a écrit sur le petit journal. Empruntant au monde des médias et de la communication, l'œuvre de Claude Kloski investit toutes sortes de formes, dessins, collages, livres, vidéos, photos, papier peint, dispositifs sonores, sites internet, qui en déjouent le sens.
Eh ben, avec ça, on est bien avancé.
Elle coûte cher, tu crois, cette pièce?
Question intéressante. Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que tu m'aurais demandé ça devant un Matisse ou un Picasso, par exemple? Tu penses qu'à cause de sa forme industrielle, minimale, cette œuvre n'a pas de valeur?
C'est bête, je sais, mais je peux pas m'en empêcher.
De toute façon, l'art, c'est comme le reste. Ça obéit à la loi de l'offre et de la demande. Si peu de gens veulent acheter cette œuvre, elle ne coûtera pas cher. Mais si des tas de gens veulent l'acheter, le prix va monter.
Logique.
Mais ça n'a pas de prix, en fait. Parce que selon la loi française, les musées français n'ont pas le droit de vendre les pièces de leur collection.
Ah, je savais pas.
Mais tu sais pas tout, ma chérie.
Si, presque.
Une valeur d'assurance est tout de même fixée par les conservateurs du musée, qui dépend du prix de l'œuvre. Cette valeur peut évoluer. Si la cote d'un artiste explose, par exemple, ce qui arrive parfois, surtout dans l'art contemporain, la valeur d'assurance de son œuvre est réévaluée à la hausse.
Et si l'œuvre est prêtée pour une exposition?
L'institution à qui l'œuvre est prêtée doit payer une prime d'assurance. La plupart du temps, ça correspond à 1/1000 de la valeur d'assurance.
Mais d'où tu sors tout ça?
Je m'intéresse à l'économie, moi, madame, pas seulement à l'art.
Frimeur.